Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du jeudi 28 janvier 2021. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. En RDC, au lendemain du renversement du gouvernement par le Parlement, le Premier ministre Ilunga dit attendre une notification officielle. En Algérie, lourde peine de prison pour d'anciens dignitaires du régime de l'ex-président Bouteflika. L'Union africaine annonce l'obtention de 400 millions de doses supplémentaires de vaccins anti-Covid. Le pape François, qui se rend en Irak au mois de mars, va rencontrer l'ayatollah Ali Sistani lors de sa visite. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et sport. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, les 24 heures que l'Assemblée nationale a données au Premier ministre Sylvestre Ilunga pour remettre sa démission arrivent à échéance. Le chef du gouvernement dit attendre une notification officielle de la motion de censure avant de prendre ses responsabilités. Le point avec Eddy Issongo.
Sylvestre Ilunga Ilunkamba s'est dit prêt à prendre ses responsabilités conformément à la Constitution, mais il attend d'être officiellement notifié. Dans une déclaration écrite, il affirme reconnaître la compétence de l'Assemblée nationale à examiner la motion de censure qui lui a été destinée avec 301 députés nationaux qui l'ont signée. Monsieur Ilunga Ilunkamba réaffirme par ailleurs ses griefs au bureau d'âge pour usurpation des prérogatives. 367 députés ont voté hier pour sa déchéance. Il s'agit pour la plupart de ceux qui ont intégré l'Union sacrée, la nouvelle coalition que le président Félix Tshisekedi met en place après la rupture avec les camps de Joseph Kabila. Il y a quelques heures, l'informateur que Tshisekedi a nommé, Bahati Lukwebo, lui a rendu les résultats de l'identification de la nouvelle majorité.
Amnesty International accuse le gouvernement nigérian de protéger les responsables de la sanglante répression des manifestations contre une unité spéciale de la police en octobre à Lagos, qui a fait au moins une douzaine de morts, selon l'ONG. Les autorités nigérianes n'ont pas traduit en justice les personnes soupçonnées d'être responsables de la brutale répression et ont tenté de dissimuler la violence, a dénoncé Amnesty dans un communiqué publié ce jeudi, 100 jours après les événements. Devant une commission d'enquête, l'armée avait nié avoir eu recours à des balles réelles, affirmant que seules des balles à blanc avaient été tirées. La plus haute juridiction sud-africaine a ordonné jeudi à Jacob Zuma de témoigner devant la commission d'enquête sur les soupçons de corruption généralisée durant sa présidence. Les conclusions de la commission anticorruption ne déboucheront pas directement sur des inculpations, mais pourront être transmises au parquet pour d'éventuelles poursuites. L'ancien président n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission présidée par le juge Raymond Zondo en juillet 2019. Mais il s'était retiré au bout de quelques jours, considérant qu'il était traité comme un accusé et non comme un témoin. En Algérie, deux anciens premiers ministres du président Abdelaziz Bouteflika, des hauts responsables et des hommes d'affaires, ont été condamnés ce jeudi à Alger à de lourdes peines de prison lors d'un procès emblématique de la corruption régnant sous l'ex-homme fort de l'Algérie. Le point avec Nani Talani.
Ce jugement confirme les peines de 15 et 12 ans d'emprisonnement prononcées lors d'un premier procès en décembre 2019 à l'encontre des deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sélal. Ils étaient poursuivis dans le cadre d'un énorme scandale dans l'industrie automobile et du financement occulte de la campagne électorale de l'ex-président déchu début 2019. Ce scandale a entraîné une perte pour le trésor public algérien estimée à plus de 975 millions d'euros. Une quinzaine d'autres personnalités, dont des anciens ministres, depuis son patron et de hauts fonctionnaires, sont aussi concernés. Ce nouveau procès s'était ouvert le 9 janvier après que la Cour suprême algérienne a accepté un pourvoi en cassation de la défense. Le parquet avait requis 20 ans de prison. Si la justice a confirmé les peines des deux anciens premiers ministres, elle a été en revanche plus clémente avec les autres accusés dont les peines ont été réduites. Une ancienne préfète, Nouria Yamina Zerouni, a même été relaxée alors qu'elle avait été initialement condamnée à 5 ans de prison.
L'Union africaine a obtenu 400 millions de doses supplémentaires de vaccins anti-Covid. portant à 670 millions le nombre de doses disponibles sur 2 ans, a annoncé le Centre de contrôle et de prévention des maladies. Nathalie Barche.
Ces doses supplémentaires ont été garanties auprès du Serum Institute of India, a déclaré le directeur du CDC africain, John Kengasong. Le laboratoire indien produit à grande cadence des millions de doses du vaccin Covishield, développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford pour plusieurs pays en développement. L'Union africaine avait annoncé le 13 janvier avoir obtenu un premier lot de 270 millions de vaccins, dont au moins 50 millions seront disponibles entre avril et juin. La Guinée, le Maroc, l'Égypte, Maurice et les Seychelles ont déjà commencé à vacciner leur population, a précisé John Kengasong. L'Afrique aura besoin d'1,5 milliard de vaccins pour immuniser 60% des 1,3 milliard d'habitants pour un coût entre 7 et 10 milliards de dollars. Le continent a été relativement épargné jusqu'ici par la pandémie, enregistrant 3,4 millions de cas pour 87 000 décès, selon Africa CDC.
Par ailleurs, le variant britannique du coronavirus a pour la première fois été détecté au Sénégal. Le variant britannique du coronavirus a été retrouvé sur un patient indien vivant au Sénégal et aujourd'hui guéri, a précisé le porte-parole du ministère de la Santé, Momodou Ndiaye, sans préciser où ni comment ce patient l'avait contracté. Des variants anglais et sud-africains du coronavirus ont déjà été détectés en Gambie. Le Sénégal fait face à une deuxième vague qui met à l'épreuve son système sanitaire. 3 adolescents suspectés d'avoir déclenché volontairement un incendie et ont causé l'été dernier la mort d'une famille sénégalaise dont 2 enfants en bas âge ont été arrêtés mercredi dans le Colorado, ici aux États-Unis, selon les autorités locales. Les 3 suspects devront répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont meurtre prémédité, tentative de meurtre prémédité et incendie volontaire. L'homicide des 5 membres de la famille Joel, brûlés vifs dans l'incendie de leur maison en août dernier à Denver, avait profondément choqué la communauté sénégalaise immigrée aux États-Unis.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pape François doit rencontrer le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité musulmane chiite d'Irak, lors de sa visite annoncée pour début mars, 2 ans après un rapprochement avec le grand imam sunnite d'Al-Azhar en Égypte. Les précisions de John Lindon.
Ce sera une première pour un souverain pontife. La visite historique du pape François en Irak est prévue du 5 au 8 mars. La rencontre privée se tiendra à la résidence de l'ayatollah Ali Sistani à Najaf, ville sainte chiite au sud de Bagdad. Le cardinal Louis-Raphaël Sacco, patriarche de l'église catholique chaldéenne d'Irak, dit espérer que les 2 dignitaires religieux vont signer le document sur la fraternité humaine en vue de la paix dans le monde. Ce document a été conclu en février 2019 à Abu Dhabi par le pape argentin et Cheikh Ahmed Al-Tayeb, le grand imam de l'Institut Al-Azhar, au lieu de l'islam sunnite au Caire. Sa signature par l'ayatollah Sistani signifierait son approbation par la seconde majeure communauté de l'islam. Âgé de 90 ans et figure titulaire de la politique irakienne, Ali Sistani n'apparaît presque jamais en public. Il reçoit très rarement des visiteurs et délivre ses sermons par le biais d'un de ses représentants pendant les prières du vendredi.
Un négociateur taliban de haut rang a discuté ce jeudi à Moscou avec des responsables russes du processus de paix avec le gouvernement afghan, actuellement en cours à Doha. Cette visite survient moins d'une semaine après que le nouveau président américain Joe Biden a exprimé son intention de revoir l'accord conclu en février 2020 à Doha par son prédécesseur Donald Trump avec les talibans, notamment pour évaluer le respect par les insurgés de leurs engagements. La justice russe a décidé de maintenir en détention l'opposant Alexei Navalny, qui a dénoncé une décision arbitraire destinée à l'intimider à 3 jours de nouvelles manifestations prévues dans toute la Russie. Son avocate a annoncé aux journalistes qu'elle ferait appel de cette décision tout en se disant sans espoir particulier. Elle a estimé que ces procédures judiciaires visaient à exclure de la vie politique du pays son client. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
En Zambie, le projet Skrika a permis à la fin de 2020 la mise en œuvre d'environ 1200 micro-projets au profit de 800 000 agriculteurs désormais capables de faire face au changement climatique. Ils ont accès à des forages alimentés à l'énergie solaire et à d'autres innovations pour irriguer les cultures, accroître leurs revenus et accéder à la sécurité alimentaire. Lancé en 2014, Skrika a été financé par la BAD et les fonds d'investissement pour le climat. La Tunisie a besoin d'un plan de réforme exhaustif et crédible, soutenu par sa population et ses partenaires internationaux, pour atteindre une croissance durable et inclusive sur le moyen terme, estime le FMI. L'Institut encourage les autorités de Tunis à continuer de renforcer les filets de protection sociale et à améliorer l'investissement public. Le déficit budgétaire devrait s'établir à 11,5% du PIB à cause de la baisse des recettes fiscales, de la masse salariale et des transferts supplémentaires aux entreprises publiques. Pour terminer, l'économie américaine s'est contractée de 3,5% en 2020 à cause du coronavirus, selon une estimation du département du commerce publiée jeudi. C'est la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Les dommages provoqués par la pandémie sur le marché du travail restent extrêmement importants. Début janvier 2021, 18,3 millions de personnes ont touché une allocation chômage, soit 2,3 millions de plus que la semaine précédente.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La phase de groupe de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se dispute au Cameroun s'est achevée hier.
Certains confrères sur le continent ont livré leurs impressions à l'issue de ce premier tour bien engagé. On écoute Sidoine Amoussou de Passion Football Club.
Sincèrement, moi j'ai été agréablement surpris du niveau affiché par les équipes. Surtout les équipes d'Afrique de l'Est, ça joue bien au football.
Suivons à présent Steven Lavon, journaliste sportif togolais.
Très très beau match, de très jolis buts, beaucoup d'engagement, de détermination. Très 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 beau tournoi jusque-là. On a de très jolis stades, de bonnes pelouses, parce que ça a été souvent un facteur déterminant dans la production du beau jeu.
On écoute aussi Albert Ougoudegui du service des sports du Radio Bénin.
C'est la première compétition en période du Covid qui autorise du public. Même si c'est à 25% de la capacité des stades, on voit qu'il y a une belle ambiance. Les supporters qui sont là, ils animent bien. On espère que ça va continuer jusqu'à la fin de la compétition.
Et enfin, on écoute Eric Kouam, journaliste sportif à Royal FM à Yaoundé.
On a pensé à un moment donné que certains pays auraient pu traverser le premier tour, mais aujourd'hui, ces pays sont restés à la traîne, comme pour dire quoi, que la qualité du spectacle et la qualité du jeu dans les championnats locaux ne permet pas, n'est-ce pas, de se délecter. Donc, le football local doit encore se développer.
Des propos recueillis par Élisée Nkwatine, notre correspondant au Bénin.
Toutes les affiches des quarts de finale sont connues. Dimanche, la Guinée fera face au Rwanda et la Zambie rencontrera le Maroc bien avant. Samedi, les deux premiers quarts de finale mettront aux prises le Congo et le Mali. Puis la République démocratique du Congo défiera le pays hôte, le Cameroun, dans le derby de l'Afrique centrale. Et justement, la RDC est partagée entre satisfaction, incertitude, voire inquiétude sur l'effectif des Léopards avant leur match, malgré le retour dans le groupe du sélectionneur Florent Ibengué et 3 joueurs contrôlés négatifs au Covid-19. Ces derniers ont pris part à la séance d'entraînement d'hier au terrain annexe du stade de Japoma à Douala. Sur place, la correspondance de Valdo Simoyamba.
3 joueurs, dont 2 gardiens de but et le sélectionneur principal de la RDC négatif à la Covid-19, ont rejoint les restes du groupe, ce qui n'est pas du tout motif de satisfaction pour le sélectionneur Florent Ibengué.
Je ne suis pas totalement content, vous le voyez bien. J'aurais préféré, moi, rester et puis qu'un joueur se libère encore pour l'équipe. Bon, ça c'est pas fait. Il y a un nouveau test dans 2 jours.
Un test qui pourrait libérer les uns et envoyer les autres joueurs en quarantaine, d'où l'incertitude reste d'émise, explique les sélectionneurs de la RDC.
On a 3 joueurs qui sont sortis ici, mais bien malin qui peut me dire quel groupe j'aurai contre le Cameroun. On ne sait pas si d'autres encore vont être pris.
Près d'une semaine passée en quarantaine, les sélectionneurs de la RDC est pourtant resté actif avec l'ensemble du groupe.
Le matin du sport, discussion avec le staff, avec les joueurs, avec les téléphones. Hein. Et après, un visionnage des matchs pour pouvoir anticiper et puis préparation des entraînements avec le groupe.
La RDC est l'un des pays les plus touchés par la Covid-19 dans ce Chan 2020, puisque 12 autres cas demeurent encore en quarantaine, joueurs et membres du staff technique y compris. Douala, Val de Simoyamba, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le Premier ministre déchu hier par une motion de censure déclare attendre une notification pour démissionner. Qu'est-ce qui a milité pour que sa décision change? Eddie Isongo a joint à Kinshasa l'éditeur du journal L'Objectif, Edmond Izuba.
Ce qui est là, c'est que on ne sait pas ce qui s'est passé pour que le Premier ministre change d'avis et qu'il accepte la motion de censure et le vote tel que passé. Pourtant, hier jusque tard, il était encore dubitatif par sa lettre écrite au chef de l'État. Il a fait savoir au président de la République qu'il attendait les bureaux définitifs pour démissionner. Mais il semble qu'aujourd'hui, beaucoup de pressions se sont exercées autour de sa personne, y compris par des moyens diplomatiques pour solliciter sa démission qui, si ce n'est pas parvenu, aurait occasionné une crise. Donc, c'est ça.
Mais aujourd'hui, là, les 24 heures annoncées par le président du bureau d'âge arrivent à échéance. Qu'est-ce qui se passe? Le Premier ministre dit dans sa note qu'il n'a pas encore été notifié.
Non, je crois que le président de la République avait promis de récompenser le bureau d'âge quand ils se sont vus pour la première fois, je crois, après leur prise de fonction. Ils sont allés rendre compte au président de la République et le président de la République avait promis qu'il y aura une récompense. Et donc, pour moi, le fait pour le combo Kodia Christopher de postuler à ce poste du président de l'Assemblée fait partie donc des récompenses voulues par le chef. Donc j'ai même appris que le ticket qu'il porte, c'est le ticket Union Sacrée. Et donc Jean-Marc Aboud se pointe au poste de premier président du bureau. Donc voilà, ça peut se justifier à ce terme-là.
Mais qu'est-ce qui explique le fait que le Premier ministre ne soit pas encore notifié?
Bon, la notification, d'après nos informations, devrait se faire aussitôt que la plénière terminée. Donc, c'est par les circuits administratifs. Et puis, le président du bureau devait juste apposer sa signature. Ce qui retarde, je ne sais pas. Mais ce qui dit la Constitution est que le Premier ministre doit présenter sa démission 24 heures après le vote de la motion. Et nulle part dans la Constitution on fait allusion à une notification que le Premier ministre pourrait attendre. Et puis du coup ce n'est plus les bureaux d'âge qui devraient être situés, les bureaux définitifs que le Premier ministre attendait.
C'était Edmond Izuba, l'éditeur du journal L'Objectif à Kinshasa.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari vient de renvoyer les plus hauts gradés de l'armée. Le pays subit depuis plusieurs années une crise sanglante dans le nord-est, des affrontements meurtriers dans le centre, du grand banditisme et des enlèvements presque partout. Les nouveaux patrons de l'armée feront face à de nombreux défis. Les avis des Nigérians sur la nomination de ces nouveaux chefs militaires, et c'est un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
La décision du président nigérien Muhammadu Buhari de limoger ses chefs militaires a été une surprise pour beaucoup. Auparavant, il y a eu plusieurs appels pour leur destitution qui sont restés sans effet. Les chefs militaires sortants ont servi pendant environ 5 ans, ce qui faisait de leur mandat le plus long depuis le retour du Nigeria à la démocratie en 1999. Kabiru Adamu est expert en sécurité.
All of these persons have been at the management level.
Tous ces gens étaient aux affaires et ils ont dirigé différentes sections des opérations de l'armée. Donc, je ne suis pas très optimiste qu'il y aurait des changements significatifs. Et pour être clair avec les chefs militaires sortants, ils ont beaucoup travaillé, en particulier le chef d'état-major de l'armée de l'air. Il a effectué beaucoup de changements, notamment dans le domaine de la recherche et du développement. Il a fait un travail remarquable.
Les anciens chefs de la sécurité ont fait l'objet de nombreuses critiques à cause de la montée spectaculaire du grand banditisme et des enlèvements contre rançon. Solomon Ezo est un ancien officier de la marine nationale à la retraite. Il estime que la nomination d'Awal Zubeiru Gambo à la tête de la marine pourrait apporter des changements.
L'amiral Ezi Gambo, c'est quelqu'un avec lequel j'ai travaillé intensément. C'est quelqu'un qui a le souci pour le reste des officiers. En plus, il est aussi un jeune officier intelligent. Nous le connaissons dans le service comme un officier qui ne fait pas des bêtises. Son arrivée va particulièrement injecter un nouveau sang au sein de la marine.
Pour certains, la nomination de ces nouveaux chefs militaires est tardive après des mois de pression et ils devront faire beaucoup plus.
Les nouveaux chefs militaires doivent être plus actifs que les anciens parce qu'ils n'ont rien fait. Les attentats dans le nord se multiplient et les gens se plaignent.
Pour moi, ils arrivent en retard. Il y a d'autres officiers supérieurs qui étaient prêts à remplacer ces gens. Mais ils n'ont pas reçu l'opportunité parce que ces gens ont trop duré avant de les remplacer.
D'autres estiment que changer les chefs militaires ne garantit pas pour autant la sécurité dans le pays.
Faire venir de nouveaux chefs militaires ne va toujours pas donner ce que nous voulons. C'est un problème d'individus avec lesquels ils travaillent. Cela nous amène jusqu'au dernier soldat. Si le bien-être du dernier soldat n'est pas pris en compte, il ne va pas produire des résultats satisfaisants. Ils peuvent changer, mais c'est toute la structure militaire qui doit être revue.
En 2015, les militants du groupe Boko Haram contrôlaient des vastes étendues du territoire et les attentats suicides étaient fréquents. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais les insurgés continuent de mener des attaques contre des cibles militaires et civiles, principalement dans des embuscades. En décembre, plus de 300 élèves ont été enlevés d'une école du Nord avant d'être libérés après des négociations avec les ravisseurs. Les analystes disent que des efforts doivent être fournis à l'armée nigériane pour l'équipement et les financements appropriés et surtout veiller au bien-être des troupes pour atteindre les objectifs en matière de sécurité. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, la seconde vague de COVID-19 et les mesures restrictives qui l'accompagnent ont plongé une frange de la population dans une conjoncture intenable. Des pères de famille qui ont perdu leurs revenus et des jeunes débrouillards dont la misère témoigne de notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Tout est à l'arrêt et nous sommes obligés de payer le loyer dont le coût est exorbitant. Nous habitons la banlieue où règne la pauvreté et la précarité. C'est vraiment dur.
Ibou n'est pas le seul à tirer le diable par la queue en ce moment. Bon nombre de Sénégalais à faible revenu souffrent de la conjoncture. Une conjoncture accentuée par la pandémie de COVID-19. Anta est coiffeuse à domicile. Comme les clientes sont très rares, elle avoue qu'elle reste parfois sans avoir de quoi manger.
Le maître mot en ce moment pour qualifier le contexte socio-économique au Sénégal, c'est la conjoncture. Je ne travaille plus depuis un bon moment. Je suis coiffeuse, j'habille les mariés, mais avec les mesures restrictives, plus de cérémonies, donc plus d'activités pour moi. Tenez-vous bien, ma grande sœur a son étalage devant la maison. En ce moment, son activité est aux arrêts. Il nous arrive même de rester des jours sans avoir de quoi manger. C'est très dur et pénible.
Sous le couvert de l'anonymat, ce père de famille est bouché, comme il avait contracté le virus. Après sa guérison, il a perdu plus de la moitié de ses clients.
J'avais contracté le virus, ma famille mise en quarantaine. Aujourd'hui, je suis guéri, mais j'ai perdu beaucoup de clients. Les gens ont peur d'acheter de la viande chez moi. Une situation plus que difficile pour ma famille. Je suis resté plus de 2 mois sans travailler, mais heureusement, je me suis agrippé à ma foi en Dieu. Des gens sont dans la même situation que moi. Ils survivent. Le pays va mal en ce moment. Voilà pourquoi les gens prennent la pirogue.
Ce père de famille reconnaît que depuis un moment, le mode survie est activé. Chez lui, on ne mange plus en quantité, contexte actuel.
oblige.
Un être humain a besoin de satisfaire ses besoins primaires, manger, bien manger, boire avec un esprit et être épanoui. Aujourd'hui, même bien manger est un parcours du combattant. J'en étais à un point où je voulais quitter le pays. Avoir le virus, ne pas avoir les moyens de bien s'occuper de sa famille, tu perds ton boulot, tu essaies de te reconstruire, on te met la pression. C'est vraiment dur. Il y a une disparité sociale. Nous qui sommes au bas de l'échelle, on souffre. Les autorités et les personnes nanties doivent nous aider. La situation est plus que intenable. Je m'attends à tout en ce moment.
Moi, j'attends tout.
Le climat socio-économique du Sénégal est plus que délétère et il est actuellement aggravé par la pandémie. Les gagne-peu et les démunis sont les plus vulnérables. Mal logés, ils bravent le froid et luttent pour ne pas contracter le virus. Idem pour manger assez ou correctement. Seydina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la pandémie de COVID-19, plus virulente que jamais en ce début d'année. Alors que deux vaccins sont déjà lancés, leur lente distribution, la hausse alarmante du nombre de cas et la découverte de nouveaux variants semblent atténuer l'espoir que la maladie sera bientôt sous contrôle. Plusieurs pays, y compris en Afrique, ont réimposé des mesures de restriction draconiennes dans l'attente de vaccins. Avec nos invités, nous ferons le point sur la pandémie, les nouveaux variants du coronavirus et les vaccins. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com. Au cours de sa première semaine au pouvoir, le président Joe Biden a pris le contre-pied de plusieurs politiques de l'administration Trump, dont la lutte contre la pandémie de COVID-19, ainsi que des mesures sur l'économie, l'immigration et le changement climatique. Michel Quinn de la VOA fait le point sur ces nouvelles actions dans un pays profondément divisé. Et c'est un récit de John Lyndon.
Le président Joe Biden a prêté serment le 20 janvier avec un message pour unifier une nation divisée.
Avec l'unité, nous pouvons faire de grandes choses. Nous pouvons corriger les torts, nous pouvons mettre les gens au travail dans de bons emplois.
Au cours de sa première semaine, Biden a signé plusieurs décrets annulant ceux de son prédécesseur sur la politique énergétique, la politique étrangère, l'immigration et d'autres domaines. Réaction critique du sénateur républicain Marco Rubio.
Nous avons un président qui parle comme un centriste, mais qui gouverne de l'extrême gauche et nous ne pouvons pas rester assis pendant une période de lune de miel et regarder ces choses se produire.
Mais l'administration Biden veut une rupture avec celle de Trump. Julia Azari est professeure à l'université Marquette.
C'est un signal fort pour aller dans une direction différente et cela ne se fera pas sans un certain niveau de division. Mais aussi, certains sondages suggèrent que bon nombre de ces politiques sont assez populaires.
Par exemple, le décret de Biden permettant aux personnes transgenres de servir de nouveau dans l'armée. 70% des Américains l'ont soutenu dans un sondage Gallup en 2019. Son appel à l'unité reflète l'approche adoptée par l'ancien président Barack Obama, qui avait pris fonction pendant une crise financière. Joe Biden fait face à une crise différente, la pandémie de COVID-19 et une économie ravagée. Si l'histoire nous éclaire, Biden a donc un chemin difficile à parcourir. Nicolas Beauchamp, professeur de sciences politiques à la Northeastern University.
Avec Obama, je ne pense pas que le message a nécessairement fonctionné très bien en termes de rapprochement de la droite et de la gauche. Et je ne pense pas que cela fonctionne très bien non plus en ce moment. C'est le mieux qu'une situation difficile en termes d'unification d'une nation fortement divisée.
Joe Biden révoque ce jeudi la règle interdisant à l'État américain de financer des ONG étrangères offrant des services d'avortement. L'avortement est légal aux États-Unis, mais divise encore fortement les Américains. Les Républicains accusent Biden de chercher à annuler l'héritage de son prédécesseur. Les démocrates, on s'en souvient, avaient accusé Trump de la même chose il y a 4 ans.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Joselle Morissin. À la présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24.